France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Alors, on a regardé le classement PISA, qui évalue, vous le savez, le niveau des enfants de 15 ans dans les écoles de l'OCDE. Nous sommes en 23e position, donc dans le ventre mou du classement, ce qui n'est pas nouveau. On progresse peu, mais ça n'est pas le niveau qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous a frappé, c'est combien les inégalités sociales sont le point noir des résultats français. Ce n'est pas la première année, on ne le découvre pas, mais ça ne change pas. Il y a un écart de 107 points entre les élèves les plus favorisés, les plus défavorisés. C'est largement plus que la moyenne, et ce qui est plus intéressant encore, c'est l'incapacité des élèves à se projeter dans l'avenir, même avec de bons résultats parfois. Et c'est là qu'on s'arrête. Pourquoi un fils d'ouvrier n'arrive pas à s'imaginer ingénieur en biochimie? Pourquoi une fille d'agriculteur ne s'imagine pas dans des études longues? Dans ces catégories sociales, ils sont 30% à ne pas envisager d'études supérieures. Parce qu'ils ne s'en croient pas capables, parce que personne ne leur a dit qu'ils en étaient capables, parce que dans leur famille on ne les pousse pas, parce que peut-être l'école non plus, ou qu'on ne les incite pas à aller chercher la classe prépa qui est pourtant parfois à portée de main. Et aussi parce qu'on quitte sa ville ou sa région plus difficilement, pas seulement pour des raisons économiques, à fracture sociale, on y viendra, s'ajoute parfois déterminisme géographique qui vaut pour la ruralité comme pour les banlieues souvent. Une étude a été faite récemment, elle parlait de jeunes assignés à résidence. Ces fractures sociales et territoriales pour les jeunes, pour les lycéens, pour les étudiants, elles résonnent avec celles qui secouent évidemment la France depuis ces derniers mois et on en parle ensemble. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Voilà, vous le savez, donc on n'a pas de coup de fil ce soir, mais vous en avez l'habitude, on lira vos questions à l'antenne si vous nous appelez au 01 45 24 7000, vous êtes déjà en train de le faire. Je vais vous présenter nos invités avant la première question, qui est celle de John. Autour de la table ce soir, il y a Nathalie Mons, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous êtes aussi directrice au Conseil National de l'évaluation du système scolaire. Bonsoir Agnès Van Zanthem. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques éducatives, pardon. Et bonsoir Éric Charbonnier,
bonsoir.
Vous êtes analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Je commence avec la question de John qui est directement pour vous, Éric Charbonnier, je pense parce qu'elle touche directement à PISA. Elle parle de l'échantillon des écoles prises en compte dans cette étude. Est-ce que c'est un échantillon réellement aléatoire? A-t-il été choisi par l'État? Comment ça marche? En gros, est-ce qu'on peut tricher? Et est-ce que ce qu'on dit, du coup, je prolonge un peu sa question sur les inégalités, au fond, si on calculé ailleurs dans d'autres pays, on retrouverait exactement le même.
Non, on peut pas tricher. Dans PISA, c'est vraiment un échantillon représentatif qui suit les mêmes règles qu'on peut faire sur toutes les études qu'on peut voir au niveau national ou aussi international en France. Donc PISA évalue les élèves de 15 ans. Vous avez à peu près 6300 élèves qui ont été testés dans 252 établissements. Ils sont représentatifs des 800 000 élèves de 15 ans. Donc on a dans ces échantillons des élèves qui sont dans des filières professionnelles, d'autres dans des filières générales et technologiques, et puis certains, à peu près 20% d'élèves, qui ont redoublé et qui sont au collège. C'est ça l'échantillon de PISA.
Est-ce que, Nathalie Mons, on regarde, quand on est dans votre position, et c'est votre cas aussi, Agnès Van Zanthem, j'imagine, est-ce qu'on regarde ce genre de classement de toute façon, quel que soit ce qu'on décide d'en tirer, en se disant que décidément on en fait un alpha et un oméga qui n'a pas beaucoup de sens, ou est-ce que oui, ça reste un indicateur intéressant, et surtout dans les plis de PISA, en fait?
Ça reste un indicateur intéressant, puisqu'en fait, c'est un des rares indicateurs qui nous permet de voir comment la France progresse, et surtout comment elle progresse par rapport à d'autres pays, puisque c'est ça un des faits qui est marquant, notamment en matière d'inégalité sociale à l'école. C'est comme ça que la situation française s'est détériorée, c'est-à-dire que nous n'avons pas amélioré la situation, alors que dans d'autres pays, on a mis en œuvre des politiques beaucoup plus efficaces, et ce depuis déjà 10-20 ans. Donc c'est très intéressant d'avoir une comparaison internationale de ce type.
Et est-ce que ça veut dire, ça terminera notre tour de table avant une prochaine question, Agnès Van Zanthem, qu'au fond, d'abord on se regarde mal, nous-mêmes finalement, et qu'on se regarderait mieux effectivement si on s'occupait plus souvent de la manière dont fonctionnent les voisins, et surtout, je parlais des plis de PISA tout à l'heure, qu'on est trop intéressé peut-être aux résultats, voici quelle est notre liste par rapport au reste de pays du monde, au lieu de regarder peut-être des choses qui sont plus intéressantes à l'intérieur d'une étude de ce type.
Oui, d'une part, je pense que
PISA, effectivement, nous apporte des résultats comparatifs qui sont tout à fait intéressants, mais ça confirme quand même beaucoup d'enquêtes mm-hmm. qu'on fait déjà en France et qu'on faisait avant que les enquêtes PISA deviennent aussi populaires. Donc, je pense que c'est important aussi de le souligner. Et effectivement, je pense que l'apport des PISA, on se concentre beaucoup sur les classements et les palmarès, mais l'apport principal des PISA, c'est l'exploitation qu'on peut faire Exactement. De ces réponses. Et je pense que c'est notre rôle aussi des chercheurs. Bon, effectivement, l'OCDE le fait, mais en tant que chercheur aussi d'aller au-delà pour explorer. C'est surtout pour comprendre pourquoi. Parce Bien que sûr. C'est ça qui nous intéresse sur le fond.
Alors justement, voici la question de Marion qui nous vient de Strasbourg, qui dit « Je pense qu'il y a moins un problème d'accompagnement en France des élèves et notamment dans les quartiers défavorisés », nous dit-elle. Encore un facteur qui renforce les inégalités sociales dans notre pays. Est-ce que on peut dire que c'est une part du problème, Nathalie Mons, quand on parle d'accompagnement, on parle pas seulement celui des parents, on parle celui des profs, on parle celui des études le soir, par exemple. Est-ce que là-dessus, on pêche en France ?
Oui, quand on compare finalement ce qui se passe en France par rapport à l'étranger, on voit bien qu'à l'étranger, on a mis en place des politiques de prévention de l'échec scolaire et donc des politiques de suivi individualisé des élèves. Alors, nous, on peut avoir certains dispositifs de ce type-là, mais ça va être quelques heures qui sont posées à la marge d'accompagnement personnalisé, alors que lorsqu'on regarde certains pays asiatiques, certains pays scandinaves, c'est vraiment au cœur de la classe, on a un accompagnement suivi des élèves. Nous, on en est resté quand même surtout à miser sur des politiques de compensation. On essaye évidemment de donner plus à des établissements
C'est-à-dire
qui ont
d'argent,
moins.
En fait, on donne plus d'argent
voilà,
aux établissements.
On ne prévient pas, on compense une fois que les difficultés sont arrivées. C'est finalement deux philosophies qui sont très différentes. Même si je dirais que depuis quand même 5-7 ans, on voit se mettre en place en France des politiques qui nous disent, voilà, qui s'intéressent finalement aux premières marches de la scolarité, notamment aux primaires, en disant il faut faire en sorte d'accompagner le plus possible les élèves de façon à ne pas aller vers des difficultés scolaires. C'est par exemple plus de mètres que de classe lors du quinquennat précédent, c'est les classes dédoublées aujourd'hui. Donc on rentre dans cette philosophie de prévention, mais on a quand même 15 ans, voire 20 ans de retard.
Éric Charbonnier, on se compare toujours aux pays scandinaves notamment. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de graal du pays scandinave. Les pays asiatiques, c'est encore autre chose. Il y a d'ailleurs beaucoup de nos auditeurs qui nous disent la Chine, par exemple. Je vois Pierre ici qui nous dit la Chine est en tête du classement. Mais est-ce que nous souhaitons vraiment que nos enfants se ressemblent à des élèves chinois? Donc on a en termes de difficulté d'apprentissage et de sévérité, c'est ce que veut dire évidemment notre auditeur. Est-ce que ces comparaisons ont vraiment lieu d'être Est-ce que on n'est pas en train d'idéaliser aussi un certain nombre de nos voisins, notamment nos voisins des pays nordiques?
Disons qu'il ne faut pas s'arrêter au classement. C'est vrai que les pays asiatiques s'en sortent bien, mais dans PISA, vous avez aussi des indicateurs sur le bien-être des élèves et on a pu être critique hier lors de la sortie de l'étude pour dire il y a vraiment besoin d'améliorer le bien-être des élèves dans des pays d'Asie, en Corée, en Chine, parce qu'on voit bien qu'il y a un niveau d'anxiété qui est trop élevé. D'ailleurs, dans ces pays-là, il y a des réformes qui sont en train de se mettre en place pour développer l'art, le sport, la musique, pour rendre moins anxiogène leur système d'éducation. Je crois qu'il ne faut pas rejeter complètement ces pays, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enseignants qui sont très bien formés. Le métier est valorisé, les rémunérations sont bonnes, et les enseignants qui sont les plus performants travaillent avec les élèves les plus en difficulté. Ça, c'est vraiment une leçon qu'on retrouve aussi dans des pays nordiques, c'est qu'on investit en termes de ressources humaines dans les établissements où il y a plus besoin. Aujourd'hui, en France, on a des enseignants qui sont très bien préparés sur le volet académique du métier, mais qui sont perdus sur la partie pédagogie, sur travailler avec des élèves en difficulté, dans des environnements multiculturels. C'est ce que montrent nos études sur les enseignants. Donc, je crois que PISA nous montre aussi que lutter contre les inégalités, c'est investir davantage sur le métier d'enseignant.
Et qu'il en faudrait d'ailleurs plus. J'ai vu ça aussi dans certains des emails que nous envoient les élèves, les auditeurs, décidément, ce qui rejoint aussi peut-être un certain nombre de préoccupations du moment. On a cette question de Farid qui vient de Lacanau qui dit « J'ai un fils qui est en seconde. L'année prochaine, il devra donc faire ses fameux choix. Il devra choisir parmi les spécialités proposées. En quoi ces nouveaux choix accentuent-ils les inégalités sociales ou même géographiques ?» Agnès Van Zanthem, cette nouvelle méthode, donc le nouveau bac à venir, les spécialités à choisir, est-ce que ça montre encore plus, ça appuie sur de nouvelles inégalités ? Au contraire, est-ce que ça en aplanit certaines ?
C'est difficile à dire parce qu'on ne doit pas faire de la prophétie, donc qu'il faut attendre quand même d'avoir un certain nombre de données. Donc, à partir de cette année, on aura plus d'éléments. Je pense que d'un côté, c'est bien qu'on élimine les filières, parce qu'on sait très bien que les filières est une façon, effectivement, de créer une stratification sociale dans le système d'enseignement. Mais il faut dire que ça ne concerne que l'enseignement général, parce qu'on garde encore les filières technologiques et les filières professionnelles. Mais d'autre part, on doit se poser la question de la capacité des élèves à choisir les options, et ça renvoie beaucoup la responsabilité à l'élève et à sa famille. Et par ailleurs, effectivement, on n'a pas les mêmes options dans tous les établissements, et on a bien évidemment une concentration d'options dans un certain nombre d'établissements favorisés, et dans des établissements notamment très éloignés des grandes villes, des établissements ruraux, on va voir effectivement des différences très importantes.
Et c'est à ça que nous ramène une autre question sur franceinter.fr qui nous dit que mon fils est en première dans notre village qui est à côté de Rodez. Il n'y a ni le choix du lycée, au fond, ni le choix des spécialités. Parce que quand il y a un seul lycée, effectivement, tout le lycée ne fait pas toutes les spécialités. Comment voulez-vous qu'il envisage quoi que ce soit? Comment voulez-vous qu'il envisage aussi son avenir différemment? J'ai même parfois envie, nous dit Régis, de parler de déterminisme. Là aussi, Nathalie Mons, les inégalités sociales et géographiques en général vont de pair. Dans ce genre de cas, spécifiquement, de toute façon, il n'y a pas de choix pour le fils de Régis, ou très peu.
Alors, pas de choix, et puis aussi on voit, qu'il y a énormément d'inégalités territoriales dans l'orientation. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire avait développé toute une série d'enquêtes autour de l'orientation, et on voit bien que les ruraux, en effet, choisissent particulièrement la proximité. Quand ils essayent de réfléchir en termes d'enseignement supérieur, des problèmes de coûts aussi. Donc tous les élèves ne sont pas égaux en effet devant les problématiques d'orientation, clairement.
Mais si on choisit d'être d'une plus grande proximité, on va dire, dans les établissements ruraux, est-ce que c'est une question de moyens financiers? Est-ce que c'est même au-delà l'idée qu'on est moins ambitieux? En fait, je vais y mettre évidemment beaucoup de guillemets, en se disant qu'on n'ira pas voir le lycée plus loin ou celui de la grande ville. C'est dû à quoi, au fond, cet enfermement géographique?
Tout à fait, c'est multidimensionnel. Il y a des éléments de coût, bien sûr. Il y a des éléments aussi symboliques, c'est-à-dire la capacité à sortir de son environnement. On sait que les éléments de coût sont très importants. Dans l'enquête que nous avions menée, on a un tiers des jeunes qui éliminent des orientations pour des raisons de coût en France, entre le lycée et puis l'enseignement supérieur. Donc un tiers, ce n'est pas négligeable, et ce chiffre était encore plus élevé pour les filles comparé aux garçons. Donc ces problématiques en fait économiques, mais aussi symboliques, comment je vais sortir de mon territoire, sont évidemment
comment je me projette, c'est ça que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, Éric Charbonnier, dans le PISA de cette année. L'idée d'une incapacité, c'est pas ne pas vouloir, c'est ne pas même imaginer se projeter en fait dans autre chose. Je disais un peu en caricaturant, pourquoi ne pas se projeter en ingénieur en biochimie ou en docteur en physique nucléaire, après tout, d'où qu'on vienne. Cette incapacité à se projeter, selon vous, vient d'où et nous dit quoi surtout?
Oui, c'est très intéressant, parce que on voit malgré tout que les élèves français, si on fait le focus sur la France, arrivent à se projeter dans des études supérieures, mais ils n'arrivent pas à se projeter un métier. C'est comme si notre système d'éducation était complètement déconnecté du milieu de l'entreprise, totalement déconnecté de la finalité des études. Finalement, on fait des études pour trouver un métier qui nous correspond. Et ça met en avant de ce qu'on peut voir dans les filières professionnelles aussi, qui sont complètement aujourd'hui déconnectées du monde de l'entreprise. Il est nécessaire, et peut-être que cette réforme du bac ira dans cette direction, de rendre un peu plus professionnalisant nos études, d'amener des gens de l'entreprise qui viennent dans les écoles parler de leur métier pour créer de l'intérêt, pour créer vraiment un déclic chez les élèves et leur donner une idée du métier qu'ils veulent exercer.
Mais Agnès, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose. Je vais revenir à vous dans un instant, Nathalie.
Juste pour terminer peut-être sur l'orientation, c'est vrai que lorsqu'on compare la politique d'éducation à l'orientation en France par rapport à ce qui se passe à l'étranger, elle est indigente, en ce sens où on a maintenant tout un ensemble de pays asiatiques, mais je pense aussi à l'Australie, l'Angleterre, voilà. Quand une vraie politique d'éducation à l'orientation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en Angleterre, dès le primaire, dans les établissements défavorisés, on a des universitaires qui viennent finalement dialoguer avec les jeunes et aussi avec les parents pour qu'ils puissent se projeter dans ces voies futures et ces métiers futurs. Donc, il y a vraiment là aussi un décalage entre la France et l'étranger pour l'instant.
Alors, on parlera du rôle des profs et des parents dans un instant. La question que je voulais poser, Agnès Van Zanten, moi, quand je lis la difficulté à se projeter, j'entends aussi un problème de légitimité, en fait. On a l'impression aussi que dans certains quartiers plus défavorisés ou dans des zones qui sont plus éloignées, l'incapacité de se projeter, c'est aussi se dire « je ne suis pas légitime, donc je ne cherche même pas à demander une grande école, à demander quelque chose qui me semble loin de ma portée. »
Mais c'est-à-dire que ça renvoie effectivement à l'environnement familial, à l'environnement local de l'élève, mais aussi à l'environnement scolaire. Dans une enquête récente que j'ai pu faire, on voit très clairement que selon les établissements scolaires, on ne présente pas du tout le même paysage des études supérieures aux élèves. Et on utilise d'ailleurs le même PowerPoint de l'éducation nationale qui présente toutes ces filières, qui est très très difficile à comprendre. Mais dans un cas, on ne va parler que des BTS, que de l'université. Et dans l'autre cas, on va parler des classes prépa, on va parler des filières sélectives. Et par ailleurs, on a effectivement, pour continuer ce qui a été dit tout à l'heure, on a montrer qu'effectivement, il y a des différences très très importantes dans la qualité du service d'orientation qui est donné aux élèves. Dans les établissements, dans les lycées favorisés, on parle de l'orientation de la classe de seconde. Dans les lycées défavorisés, c'est vraiment quand Parcoursup ouvre qu'on commence parfois à parler d'orientation. Ces lycées défavorisés sont très mobilisés par d'autres questions, la réussite au baccalauréat, le décrochage, des problèmes sociaux des élèves. Et donc, l'orientation n'est qu'une petite partie de leur activité, alors que d'autres lycées s'investissent beaucoup là-dessus. Donc tout cela fait que finalement les élèves sont très très perdus. Et aujourd'hui les enseignants eux-mêmes sont perdus. Donc ils n'ont pas le même discours qu'autrefois qui était un discours plutôt assez négatif, de vraiment canaliser les élèves vers certains types de métiers, dans la limite où ils ne savent pas trop quoi dire à ces élèves des milieux défavorisés. En fait ils disent rien très souvent et c'est très difficile pour les élèves aussi.
Ça fait partie de, Éric Charbonnier, des choses qu'on a pu entendre ici au téléphone sonne, qu'on a parlé de Parcoursup notamment, de profs qui étaient un peu perdus pour expliquer aux élèves quels étaient dans quelle direction il valait mieux les conseiller d'aller et je retrouve aussi dans l'étude de cette année une impression qu'au fond les profs aident peu et non pas par manque de volonté mais aussi par un terrible manque de renseignements et d'informations là-dessus.
Oui, par un manque d'informations, mais aussi par des programmes scolaires qui sont très longs. Et c'est ce qu'on voit, la France est le pays qui déclare qu'il y a le moins de soutien. Enfin, les élèves déclarent être insuffisamment soutenus de la part des enseignants. Et ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'aujourd'hui, on travaille pour le programme scolaire. On a des programmes scolaires qui sont très longs. Et les élèves qui décrochent sont un peu laissés de côté. Sur cette statistique, on voit que c'est encore plus marqué dans les établissements favorisés. C'est-à-dire que dans ces établissements-là, il y a des élèves qui sont certes des bons élèves, mais peut-être que les enseignants travaillent davantage pour ceux qui iront dans les grandes écoles ou dans les filières les plus prestigieuses. Et ça, c'est un élément intéressant qui montre qu'il faudrait aller vers plus de personnalisation de l'enseignement, se dire qu'aujourd'hui, le rôle de l'enseignant, c'est de permettre à tous les élèves de développer leurs compétences et d'avoir les mêmes chances d'accéder à leur filière de leur choix.
Nathalie Mons, là-dessus ?
On a quand même eu des réformes qui se sont mises en place récemment. Par exemple, en terminale, désormais, on a deux professeurs principaux, justement, pour accompagner plus individuellement. Et l'étude que le Conseil national d'évaluation du système scolaire avait fait dans les établissements montrait vraiment il y a une vraie appétence et un vrai investissement des enseignants. Ils ne sont pas à côté
jeu. De volonté.
Par contre, il y a un problème de formation. C'est-à-dire qu'accompagner un jeune dans le décryptage de ses appétences, de ses goûts, ça c'est très compliqué. Alors il y a les psychologues de l'éducation nationale, mais qui ne peuvent pas être partout. Donc il y a un vrai problème là aussi de formation des enseignants à l'accompagnement des jeunes en matière d'orientation.
Et puis des lycées dans lesquels il y a des conseillers d'orientation, des lycées dans lesquels il n'y en a pas, qui sont plus actifs que d'autres ou même plus nombreux que d'autres. Est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui des conseillers d'orientation, par exemple,
dans les...
En termes de chiffres, ça veut dire quoi, désormais ?
Ça veut dire qu'il y a un choix qui a été fait qui n'est pas dit, qui est en fait de se tourner vers les enseignants pour qu'ils fassent eux-mêmes l'activité des suivis de l'orientation, notamment dans une optique de s'orienter vers l'enseignement supérieure et n'est pas de s'orienter vers les filières courtes comme autrefois. Et effectivement, moi je mettrais un petit bémol parce que je ne pense pas que les enseignants soient très enthousiastes par rapport à cela. C'est un travail supplémentaire pour lequel ils n'ont pas été formés et qui exigent des nouvelles compétences de leur part. Donc c'est très très difficile parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a fait ce choix-là sans que les acteurs du système en soient totalement convaincus ni impliqués des faits.
On a cette question qui nous vient de Céline et qui dit « Les inégalités sont aussi fonction de la richesse des communes car les sorties scolaires, les sorties sportives sont financées évidemment par elles. Tout ça est aussi fonction de la bonne volonté dans les collèges du principal. Pardon. J'habite dans une petite ville dans la Marne, dit-elle. Il y a très peu de sorties culturelles, des sorties sportives de temps en temps. J'aimerais un système éducatif républicain dans lequel, quel que soit l'endroit où l'on vit, les enfants puissent faire les mêmes études. Moins d'accès, moins de réseaux, moins de visites, moins de tout ça. Ça aussi, j'imagine, Nathalie Mons, accentue ce qu'on retrouve après dans des classements comme celui-ci.
Oui, on a des très grandes inégalités de budget, en effet, selon les municipalités, si on regarde le primaire, ou les départements pour les collèges, ou les régions pour les lycées. Ça, c'est du côté collectivité territoriale. Mais l'enquête que nous avions faite sur les inégalités territoriales, elle portait tout simplement sur l'école républicaine avec le ministère de l'Éducation nationale. Et là, on avait pu mettre en avant clairement l'existence d'une discrimination, non pas positive, telle qu'on le répète toujours, mais négative. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les ressources humaines enseignantes, qui est quand même la dimension stratégique des apprentissages des jeunes, ces ressources humaines enseignantes, ces équipes enseignantes, elles sont très différentes selon les établissements. C'est-à-dire que les établissements qui accueillent les publics défavorisés concentre en plus des très jeunes enseignants avec peu, sinon pas d'expérience, des enseignants le plus souvent en plus contractuels, et puis des équipes pédagogiques qui bougent énormément. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités de traitement qui expliquent aussi le point du départ, c'est-à-dire ces inégalités sociales à l'école. Donc elles sont du côté des collectivités territoriales, certes, mais aussi du côté du ministère, voilà, sur une dimension stratégique, les équipes enseignantes.
Lionel est à Brest et voici ce qu'il nous dit. Je suis enseignant dans un lycée qui est proche de Brest, donc nous avons instauré un système de mentorat, c'est-à-dire que les grands encadrent, accompagnent, aident les plus jeunes et notamment issus des mêmes milieux. Et les résultats, dit-il, sont surprenants. Je pense que nous devrions élargir ce système à tous les lycées de France. Qu'en pensez-vous, nous dit-il, qu'en pensez-vous Agnès Van Zantem?
C'est des systèmes qui se développent actuellement et je trouve effectivement que c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus surestimer la capacité des jeunes. C'est-à-dire, si c'est pour effectivement ouvrir des perspectives.
C'est peut-être l'idée regarde, voilà. Moi j'y suis allée dans cette prépa et c'était pas si compliqué.
Tout cela, ça peut être très utile et très important. Mais moi, je trouve que parfois c'est un tout petit peu problématique parce que quand ces jeunes s'impliquent par exemple dans le soutien scolaire, il n'est pas sûr toujours qu'ils aient toutes les compétences. Ils ont de leur côté l'enthousiasme, la proximité d'âge, etc. Mais ils n'ont pas toujours les compétences pour accompagner ces jeunes qui, notamment ceux qui ont des réelles difficultés scolaires. Ceux qui ont des problèmes d'orientation, c'est un tout petit peu différent, mais ceux qui ont des réelles difficultés scolaires ont besoin d'un soutien beaucoup plus systématique. Donc, je pense que ces systèmes sont bons, mais il ne faut pas leur faire faire plus qu'ils ne peuvent par rapport à l'état actuel du système.
Éric Charbonnier, encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on sait mieux faire ça à l'extérieur, l'accompagnement, y compris par les propres élèves vis-à-vis d'autres élèves?
Alors, pas forcément l'accompagnement par les propres élèves, mais on a vu dans l'étude PISA qu'en France, il y a moins de coopération entre les élèves à l'intérieur de l'école en France que dans la plupart des autres pays. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on travaille en groupe d'élèves, on peut mettre des groupes avec des élèves de niveaux différents. Donc ceux qui sont les plus doués vont aider les autres à apprendre et puis ils vont en tirer de la confiance en eux, de la fierté. C'est quelque chose qui est monnaie courante. En France, on voit bien que ça ne fait pas partie de notre culture et je l'élargirais même aux enseignants, aux chefs d'établissement. Nos statistiques montrent la culture de coopération entre enseignants est très peu développée en France, que le chef d'établissement est très loin des équipes pédagogiques. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre aussi, créer des vocations, développer le centre d'intérêt chez les élèves, c'est développer une culture de coopération à l'intérieur des établissements, ce qui va permettre aux élèves d'entendre différents discours et de trouver le déclic d'une façon ou d'une autre.
Moi, j'ai toujours un peu scotché quand j'entends ça, en fait, Nathalie Mons, parce que ça paraît être un peu l'enfance de l'art aussi, de travailler à plusieurs. Comment se fait-il que ce soit pas de notre culture? Selon vous, c'est presque aussi à la prof que je m'adresse. Comment se fait-il qu'on ne fasse pas plus souvent, et notamment au milieu des élèves, est-ce qu'on instaure une forme de compétition qui fait qu'ils ne travaillent pas ensemble? C'est quoi l'idée en fait chez nous?
Les racines sont très anciennes, de ce refus des pédagogies coopératives en fait. On remonte hein, au 18-19e siècle, hein, avec un refus au départ voilà, de l'Église d'intégrer hein, dans les écoles qu'elle gérait ce type de pédagogie, parce que ça voulait dire finalement que les jeunes étaient en capacité à se gérer eux-mêmes, voilà, et non plus dépendants du maître. Hein, voilà. Donc c'est une longue histoire. Hein, donc du coup,
ça, on n'est pas sorti, vraisemblablement.
Ça va être difficile à bouger, en effet. Mais le tutorat,
c'est l'image même de la méritocratie à la française. Ouais. C'est une compétition inter-individuelle qui, au début, n'est pas très visible, mais qui devient de plus en plus violente au fur et à mesure qu'on avance dans le système. Donc c'est extrêmement individualiste et on le sent très très fortement chez les élèves. Ils sont concurrents les uns avec les autres, beaucoup plus que coopératifs.
C'est pour ça que ceux qui sont à la traîne, le sont, alors définitivement certainement pas, on l'espère pour eux, mais effectivement ça devient beaucoup plus difficile de remonter cette pente-là au fond. On a ce témoignage de Paul que je trouve très bien, qui dit « Je suis issu de parents ouvriers, je suis né en Seine-Saint-Denis, j'ai fait des études de médecine, maintenant je suis chirurgien. Il n'y a évidemment pas de déterminisme, dit-il, mais il ajoute « C'est moi qui me mettais mes propres freins ». En fait, et toute la clé, Nathalie Mont, c'est peut-être là, en fait, comment s'enlever ses propres freins, en effet.
Sur l'autocensure, évidemment, hein, c'est un élément qui est central. Mais encore faut-il que le contexte scolaire, Agnès Van Zanten, hein, l'expliquait bien, que le contexte scolaire puisse lui-même valoriser. Hein, autrement, évidemment, chacun se retrouve à ses limites. Ce qui est important aussi, ça reboucle aussi avec un élément qui explique aussi hein, les inégalités sociales dans l'école française. Et nous n'avons pas encore parlé, c'est le problème de la ségrégation sociale dans les établissements français. PISA nous donne hein, certains éléments, le niveau est élevé et donc finalement quand on est seulement entouré de pairs, hein, PAIRS, hein, qui nous ressemble avec des jeunes dont les parents sont tous hein, avec des métiers qui sont voilà, moins en face que d'autres. Là encore, les aspirations des jeunes demeurent limitées. Donc on voit bien que c'est tout le système hein, qui doit accompagner justement pour lever hein, les phénomènes d'autocensure.
On va parler carte scolaire justement dans un instant, peut-être avec quelques questions que j'ai ici. Je voudrais d'abord poser celle d'Aurélia qui rebondissait à ce que l'un de vous disait un instant, qui parlait, c'est vous je crois, Éric Charbonnier, qui parliez de plus d'échanges, notamment avec l'entreprise et avec l'extérieur. Quid des stages de troisième, par exemple, nous demande Aurélia, qui sont supposés aider à trouver sa voie, mais qui peuvent être aussi extrêmement discriminants, car la famille est en charge de trouver l'entreprise. Pas de réseau, pas de stage réellement bien orienté. Et au fond, c'est quand on essaye de faire bien, parce que l'idée de départ est sûrement bonne, que peut-être on se retrouve confronté à des problèmes auxquels on n'avait pas pensé.
Oui, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation essaye de développer des politiques pour proposer des stages aux enfants des milieux défavorisés. Mais en effet, le stage accentue les inégalités, les devoirs à la maison accentuent les inégalités. Il y a tout un ensemble de facteurs aujourd'hui qui font que les inégalités de départ sont accentuées finalement par le fonctionnement du système de d'éducation. Donc aujourd'hui, il faudrait réfléchir à faire venir l'entreprise dans les écoles, à avoir de l'aide aux devoirs à l'intérieur des écoles, le dispositif devoir fait qui est mis en place au collège pour aider les collégiens à faire leurs devoirs est indispensable aujourd'hui. Il faudrait le développer, le pérenniser, faire que tous les enfants en difficulté puissent avoir accès à ces aides.
Emeline est professeure et elle nous écoute, elle est en colère, elle a raison. Mettez plus de conseillers d'orientation, arrêtez de nous demander de faire le travail des autres, nous dit-elle. Ouvrez des postes pour permettre aux vrais professionnels de faire cet accompagnement, Agnès Van Zanten.
C'est vrai qu'en France, on a un modèle où l'enseignant est un spécialiste de la transmission des connaissances. Et c'est voilà, l'identité tourne autour de ces dimensions-là.
Le pauvre, il doit tout savoir. Il est spécialiste de tout également. Bon,
non, mais si on doit changer effectivement l'identité professionnelle, il faut un fort accompagnement en termes de formation, des ressources, des travail, etc. Et pour rebondir sur ce que disait Éric Charbonnier, je pense que ce qui est très important dans l'école française, c'est que en partie à cause de cela, mais de son fonctionnement général, on externalise beaucoup de choses sur la famille, sur l'extérieur, et plus on externalise, plus ça renforce les inégalités, parce que ça renvoie à la famille, ça renvoie au milieu, et les élèves qui viennent des milieux défavorisés n'ont pas le capital social, n'ont pas le capital culturel qui leur permet de faire cela.
Voici André, qui est professeur également, qui nous écrit sur franceinter.fr, qui nous dit « Je suis enseignante en REP, j'entends parler d'accompagnement perso, mais en fait, c'est pas un prof et pour un ou deux élèves, c'est un prof pour 12 élèves. Donc ce n'est pas de l'individualisation d'accompagnement, malheureusement, nous dit-elle, Nathalie Mons.
Oui, face à ce problème d'inégalité et puis de difficulté de certains élèves, depuis alors maintenant 30 ans, on multiplie des dispositifs qui sont à la marge de la classe et qui visent avec quelques heures à aider les élèves. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas en 2-3 heures, avec en effet un nombre important d'élèves, qu'on va pouvoir revenir sur toute une série de difficultés qui se sont installées à partir du primaire. En effet, l'auditrice a raison, quand on parle de suivi individualisé, c'est un nombre très important d'heures, c'est ce qu'on voit à l'étranger.
Bonjour, nous dit Eric. Bonsoir d'ailleurs. Ne pourrait-on pas prévoir une journée de préparation de l'orientation en classe de 3e ou de 2e par classe et en présence des professeurs ? Ça n'existe pas du tout, ça. J'avoue que je n'en sais rien, personnellement, n'ayant pas d'enfant à cet âge-là, ni d'ailleurs. Une journée de préparation à l'orientation en classe de 3e ou de 2e, ça n'existe pas du tout dans les établissements ?
Il y a beaucoup de... Oui, c'est variable. Au lycée, il y a 2 semaines qui sont organisées.
C'est pas quelque chose qui soit institutionnalisé de façon forte. Donc ça dépend beaucoup de la volonté du chef d'établissement, des enseignants.
Je disais qu'on parlerait carte scolaire parce qu'on a beaucoup, on a quelques questions en tout cas qui viennent autour de ces sujets et autour surtout de établissements publics, établissements privés justement en fonction de celui qu'on a ici à disposition. Lucie est à Nantes, nous dit j'ai 2 enfants qui ne sont pas dans la même école, plus dans la même école, carte scolaire oblige. Je voudrais en savoir plus sur ces rigidités au cours de cette carte scolaire parce que malgré mes tentatives pour les rapprocher, rien ne change. Ce que Lucie ne dit pas dans son mail, c'est que j'imagine que les 2 écoles de ces 2 filles sont 2 écoles qui sont très différentes, y compris peut-être en termes de sociologie. Nous avons Yaïda qui est à Pau et qui nous dit « Nous avons un gros problème de mixité sociale en France. Au final, faut-il faire complètement exploser cette fameuse carte scolaire pour imposer une mixité sociale ?» Elle ajoute même « voire imposer des quotas ».
Mais je pense effectivement que de toute façon, sans parler des quotas, on a des procédures que l'on peut mettre en avant pour dire qu'il faudrait un certain pourcentage d'élèves, qu'il faudra pas dépasser un certain niveau d'élèves. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que le problème de la carte scolaire, c'est qu'on ne peut pas avoir une solution toute faite. Parce que ça dépend beaucoup du territoire. Donc il y a des territoires dans lesquels on peut faire des choses en aménageant la carte scolaire. Il y a d'autres territoires, en revanche, où il faut mettre en place d'autres dynamiques, il faut faire de la concertation entre les chefs d'établissement, etc. Donc je pense qu'il faut des ajustements locaux, mais nous sommes tous très concordants dans le fait que la ségrégation scolaire est aujourd'hui un problème majeur et que quelle que soit la capacité des enseignants et leur bonne volonté, ils se heurtent à une difficulté parce que leurs pratiques s'adaptent au public de leurs élèves sans même qu'ils s'en rendent compte. Et donc on voit une différenciation s'accroître parce que les enseignants adaptent l'évaluation, leur méthode pédagogique, le curriculum au public qu'ils ont en face. Et c'est un facteur très important pour expliquer les inégalités dans le système français.
Éric Charbonnier ?
Nous, on a un exemple de pays. La Suède était un bon élève quand on a sorti la première étude PISA en 2000 et ils ont totalement libéralisé le choix des écoles. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que l'effet, ça a accentué les inégalités en plus de 10 ans parce que finalement, on se retrouve avec des parents qui sont bien informés, d'autres qui sont moins bien informés et au lieu d'avoir un effet de créer de la mixité sociale, ça a créé de la ségrégation avec les parents les plus favorisés qui scolarisaient leurs enfants dans les mêmes établissements. Donc, il faut faire très attention. En effet, la carte scolaire telle qu'elle est peut créer des inégalités, mais la supprimer peut en créer également. Donc, il faut vraiment être prudent.
Imposer, être un peu plus coercitif en fait vis-à-vis de la carte scolaire, Nathalie Mons, est-ce que ça servirait à quelque chose ? J'entends déjà hurler de l'autre côté du poste, mais allons-y, réponds et
je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tous les pays qui ont essayé d'aller sur des politiques autoritaires en matière de carte scolaire ont reculé au bout de 2-3 ans. Ça veut dire qu'en fait, il faut convaincre les parents. Il faut convaincre les parents et il y a des bonnes raisons de convaincre les parents parce qu'en effet, la ségrégation sociale à l'école... c'est une bombe à retardement en termes de cohésion sociale et de cohésion nationale par la suite. Parce que lorsqu'on met des élèves en grande difficulté sociale, tous ensemble, seulement entre pairs se ressemblant, ça génère des difficultés sociales, mais pas seulement. C'est-à-dire que on voit la suite, toutes les recherches le montrent, réellement une suite en termes aussi de santé, en termes d'intégration sociale, par la suite, même lorsque l'élève est sorti de son établissement. Donc il faut vraiment se pencher sur ce sujet, mais pas par des politiques autoritaires.
En lycée professionnel, nous dit cet auditeur, dont vous ne parlez quasiment jamais, nous avons l'habitude de travailler à deux, voire plus, et cela fonctionne très bien auprès des élèves. Ils y trouvent d'ailleurs du sens, ça fonctionne également auprès des équipes. Il y a une vraie différence là-dessus entre lycée professionnel et lycée des filières classiques.
Oui, tout à fait. En termes de pédagogie, on a donc un développement beaucoup plus prononcé des pédagogies actives dans le lycée professionnel. L'auditeur a raison. Ils accueillent des élèves après un cursus compliqué auquel il faut finalement redonner goût, redonner sens dans le cadre des études. Donc oui, il y a mille et une pédagogies que malheureusement on ne voit pas très développées dans les voies générales ou technologiques.
Nous avons Denis qui est professeur lui également qui dit « Je suis enseignant, je travaille avec mes collègues pour de multiples projets. Depuis quelques années, je sens des contraintes, plus d'élèves à gérer, plus de missions, plus de contractuels aussi. Et je la vois, la dégradation, nous dit-il. J'ai dédié ma vie à travailler pour la majorité des élèves, mais comment gérer les autres à très lourd profil lorsque la classe est surchargée? Il est parfois impossible de faire bien. » Est-ce que les classes surchargées, qui est notre, j'allais dire, c'est notre alpha et notre oméga quasiment, parce qu'on en parle à chaque rentrée et depuis tellement longtemps, est-ce que les classes surchargées, quelque chose que les autres autour de nous ont mieux réglé, Éric Charbonnier?
Pas forcément. Dans les pays d'Asie, vous avez 40 ou 50 élèves par classe et pourtant ça fonctionne plutôt bien. Les classes chargées, c'est pas la solution forcément. Réduire la taille des classes, ça fonctionne quand on y associe de la qualité. C'est-à-dire quand on parle des CP, des CE1 dédoublés, c'est une bonne idée de diviser la taille des classes par deux, mais il faut des pédagogies adaptées qui permettent de tirer bénéfice des dispositifs. C'est ça aujourd'hui la réflexion qu'il faut avoir, mais je crois que le métier d'enseignant est devenu de plus en plus difficile et justement cette notion de coopération va être très importante pour faire face aux difficultés de discipline. C'est ce qu'on a vu aussi dans cette étude PISA, c'est qu'il y a une montée de l'indiscipline et vous avez un élève sur deux qui déclare être gêné par du
absolument
bruit,
et particulièrement
à la plupart
chez
des
nous,
cours.
D'ailleurs,
voilà. Donc ça montre qu'il faut mieux préparer nos enseignants, qu'il faut créer de la coopération, qu'il faut un chef d'établissement fort aussi qui permette de créer un climat de discipline à l'intérieur des établissements.
Il faut aussi aider à gérer mieux la carrière des enseignants. Il y a des enseignants qui s'épuisent à force de travailler dans des établissements défavorisés où ils sont extrêmement mobilisés, mais on ne peut pas rester à ces niveaux de mobilisation permanente tout au long de sa carrière. Donc il faudrait offrir des possibilités, des carrières et des mouvements qui n'existent pas aujourd'hui facilement dans le système.
Et oui, c'est ce qu'on voit en France et ailleurs. Il y a un véritable problème d'attractivité du métier. Et même en Allemagne, où les enseignants sont payés deux fois plus qu'en France, il y a un problème d'attractivité parce qu'ils estiment que le métier est devenu trop exigeant. On attend tout des enseignants et la lutte contre les inégalités, elle se passe aussi en dehors des murs de l'école. Il faut vraiment des partenariats avec les acteurs sociaux. Il faut des politiques éducatives inclusives qui prennent en compte tous les acteurs des municipalités.
Regardez cette question. Vous vouliez intervenir, pardon.
Je voulais pointer les contractuels. Ouais. Je pense qu'il décrivait, l'auditeur décrivait tout un cadre. Et c'est vrai que ces contractuels, on va les retrouver dans des contextes, dans des établissements qui accueillent des publics défavorisés ou des établissements qui sont semi-ruraux, donc assez éloignés. Et là, évidemment, ça devient compliqué puisque ce sont des gens qui ne sont pas formés. On peut avoir dans certains établissements, entre les jeunes enseignants qui ne supportent pas les difficultés et ces contractuels, un tiers, voire la moitié de l'équipe pédagogique qui part tous les ans. Donc inutile de vous dire que pour monter un projet pédagogique qui tienne la route, c'est extrêmement difficile.
Tiens, pour conclure cette émission, je voudrais vous donner le témoignage de Raphaël qui nous dit « Mes filles ont toutes passé un an comme lycéennes à l'étranger, aux USA, en Argentine, en Nouvelle-Zélande et en Australie, donc elles ont de la chance. Elles ont toutes apprécié les systèmes qu'elles découvraient, éprouvé des difficultés parfois, à retourner dans un lycée français et dans son formalisme. Par deux fois, nous avons accueilli de jeunes lycéens, notamment des Danois et des Italiens. Et voici la remarque de l'un d'eux. Je vais rentrer au Danemark, retourner au lycée. Il y aura des jours où je ne voudrais pas y aller, mais je me dirais, ça pourrait être pire. Je pourrais être au lycée en France. Merci à Raphaël pour ce témoignage. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de parfois plus ludique, en fait. Est-ce qu'on a du mal à être ludique quand on est enseignant, nous, dans nos lycées? Ce sera la phrase de fin, Éric Charbonnier.
Oui, c'est clair qu'on est très axé sur la théorie. On parle beaucoup des méthodes de Singapour, axées autour du jeu, de la manipulation. manipulation. Il faut aller vers une pédagogie plus détendue et bienveillante.
Ce sera le mot de la fin. On est un peu en retard, pardon, portez-vous bien.